La foi d'eau 66. La foi produit cette certitude. Le 18 février 2018. Brian Kozurek, pasteur. 1 Jean 5.13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Persévérant 22 août 63-66. Voyez, vous devez être sûr. Et vous, Néhémie, pouvez pas être sûr à moins d'avoir foi. Et la foi produit cette certitude. La foi, s'estère cette certitude, inclinons nos têtes dans la prière. Bienveillant Père, nous avons lu ta parole ce matin où l'apôtre Jean a dit qu'il nous avait écrit à nous qui croyons afin que nous sachions si nous avons la vie éternelle ou pas. Et puis nous avons entendu ton prophète du temps de la fin, celui de Malachie 4, dont le travail était de ramener les cœurs, la compréhension des enfants au cœur ou compréhension des pères. Et ce prophète de Malachie 4, que nous croyons être William Branham, que tu as confirmé tant de fois non seulement par l'ainsi dit le Seigneur, mais aussi par le signe du Messie, nous a dit que la foi est ce qui produit cette certitude. Par conséquent, Père, nous te demandons de nous aider ce matin d'atteindre le niveau où nous savons que nous possédons de la vie éternelle. Car quel bien nous fera notre vie éternelle si nous, Néhémie, savons même pas ce que nous avons, et si nous, Néhémie, savons pas si nous l'avons ou pas. Et cela semble être la question sur tant de cœurs aujourd'hui, alors que je reçois des questions de partout dans le monde, me demandant, comment puis-je savoir si j'ai le Saint-Esprit ou pas? Par conséquent, Père, nous demandons que ta présence nous guide davantage dans ta parole ce matin, pour assurer notre assurance et savoir avec certitude que nous possédons cette promesse de la vie éternelle, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, remarquez dans 1 Jean 5.13, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Maintenant, pour mieux comprendre de quoi l'apôtre Jean parle ici, remontons de quelques versets et commençons à lire au verset 10. 1 Jean 5.10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ou fait écho à ce témoignage en lui-même. Or, nous savons que le témoignage estère le Saint-Esprit lui-même, la vie même qui était dans le Père et qui a été donnée au Fils. Nous lisons dans Jean 5.26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Puis nous allons directement au verset 32 où Jésus dit, Jean 5.30, je n'ai mis puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je n'ai mis, cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui, du Père. Version Roi Jacques. Note du trad. Qui m'a envoyé. 31 Si c'est-ce moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. 32 Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 34 Pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. 35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. 36 Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. 37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. 38 Et sa parole n'est mise demeure point en vous. Parce que vous n'avez mis croyez pas à celui qui l'a envoyé. 39 Vous sentez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi, Jésus leur dit que si vous pensez avoir la vie éternelle, sachez une chose avec certitude, À moins que vous n'ayez le même témoin en vous tel qu'il était en lui, vous vous mentez tout simplement. Et il nous dit que non seulement les œuvres qu'il fait, du Père, sont un témoignage, mais la vie du Père en lui est aussi un tout autre témoignage. Or, les œuvres et la vie sont une seule et même chose, car Jésus a dit, 36 mois. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. 37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Remarquez donc que le même Dieu qui l'a envoyé est rentré en lui. Dans son sermon Pourquoi il fallait que ça soit les bergers l'un 21 décembre 64 FR. Branham dit, 125 remarquez, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'avait envoyé était entré en lui pour confirmer la parole. Et le même Jésus qui envoie son peuple entre dans son peuple qu'il envoie. Ce qui revient à dire, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Bien sûr, il a prié pour que nous puissions être un avec lui, non pas un avec une organisation, non pas un avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu et sa parole sont un. Et Jésus et Dieu étaient un. Vous et moi ainsi que la parole nous devons devenir un. C'est vrai. Nous devons être un en accord avec la parole. Non pas ce que quelqu'un d'autre dit. Ceci n'est mis fait pas l'objet d'une interprétation particulière. Prenez cela. Ce que cela dit. Et croyez cela. Dieu confirmera cela et il prouvera que c'est la vérité. Vous pensez que c'est seulement pour les disciples. Prenez-le au mot. Mettez cela une fois à l'épreuve et voyez. Vous découvrirez qu'elle agira pour vous exactement comme il avait promis. Oui, monsieur. 126 Elle et Néhémie mangeront pas une pâtée. Elles doivent avoir un régime alimentaire des brebis. Saint Jean 10 déclare, « Mes brebis connaissent ma voix. Et si l'Esther, la parole. Alors quel genre de voix a-t-il? Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne m'y suivront pas des étrangers. » Voyez, Jésus a dit, « Elles ne m'y suivront pas la voix d'un étranger. » Ainsi, ces brebis ne m'y suivent pas la voix d'un étranger. Elles ne m'y les suivront pas. 127 Les prophètes, les bergers et les brebis, tous témoignent de sa venue. Nous examinons donc le témoignage non seulement comme étant la vie même du Père dans le Fils et dans les fils, mais le fait de savoir que nous avons la vie éternelle vient du fait de savoir que nous avons la vie en nous qui était en lui. Et comment pouvons-nous savoir? Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'avait envoyé était entré en lui pour confirmer la parole. Et le même Jésus qui envoie son peuple entre dans son peuple qu'il envoie. Ce qui revient à dire, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Bien sûr, il a prié pour que nous puissions être un avec lui. Maintenant, retournons à un autre texte de ce matin et relisons 1 Jean 5.13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et donc, pour savoir, nous devons retourner au verset 10 et commencer à lire à partir de là. 1 Jean 5.10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ou fait l'écho de ce témoignage en lui-même. Celui qui n'aime croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il n'aime croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Alors, quel est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils? Au fleuve Jordan. Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu et est rentré dans son Fils et a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. » Dieu rendant témoignage à son Fils, qui lui plaisait de demeurer en lui. L'apôtre Paul en parlant des prophètes, a dit dans Hébreux 2.4 Dieu appuyant leur témoignage, comment? Par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, si Dieu a rendu témoignage aux prophètes par des signes et des prodiges, alors pourquoi avons-nous dérivé si loin d'eux? Parce que nous comprenons que Dieu donne aussi ses dons aux rebelles. Mais ce n'est pas parce que Dieu distribue des dons à moi également aux rebelles que nous devrions fuir les dons que Dieu nous a distribués. Si tel était le cas, seuls les rebelles les auraient. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons identifié William Branham comme étant le prophète de Dieu au temps de la fin à cause, non seulement, du fait qu'on a vu en lui Jean 4.2, mais aussi le signe du Messie. Maintenant, pouvez-vous imaginer William Branham, après que Dieu lui a révélé les faux oins au temps de la fin, pouvez-vous imaginer qu'après avoir reçu cette grande révélation, pouvez-vous imaginer que William Branham décide de Néhémie plus obéir à Dieu et de Néhémie plus faire les œuvres de Christ qu'il a vu Dieu lui montrer de faire parce qu'il aura peur d'être identifié comme un faux oin contre lequel il a prêché? Eh bien, c'est la même logique que beaucoup de pasteurs utilisent ceux qui refusent l'accès à Dieu d'opérer dans son église, parce qu'ils ont peur que les gens disent qu'ils sont des faux oins. C'est comme un prédicateur de mes amis depuis bien des années qui m'a dit, il y a environ 5 ans, qu'il n'aimait prêche pas sur l'adoption, parce que trop de ministres l'enseignent mal acquis. J'ai dit, quoi? Vous voulez dire que vous refusez d'enseigner une vérité parce que certaines personnes enseignent mal acquis cette vérité? Je lui ai dit que c'est la raison pour laquelle nous devrions l'enseigner correctement, pour redresser le mal acquis qui est enseigné. Eh bien, ce n'est pas différent de ces hommes qui pensent que vous retournez à la Pentecôte si vous croyez que les œuvres de Christ doivent être dans l'Église. Qu'une personne soit un faux oin ou pas n'a rien à voir avec l'onction authentique. Tout a à voir avec ce qu'ils enseignent. Ce n'est pas l'onction qui est fausse mais leur enseignement. C'est ce qui fait d'eux des faux oins. Maintenant, revenons à notre texte. 1 Jean 5.11 et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Donc, quel est le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle? Quel est le témoignage que nous avons la vie éternelle? Remarquez ce qu'il dit ensuite. 12 Celui qui a le Fils, celui qui fait écho au Fils a fait écho à la vie. Celui qui n'a pas le Fils, qui n'aimi fait pas écho au Fils de Dieu n'a pas, n'aimi fait pas écho à la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez, selon la version du roi Jacques, note du Trad, au nom du Fils de Dieu. Remarquez que Jean nous dit que nous avons la vie éternelle, ou le témoignage que nous avons la vie éternelle, c'est que la même vie qui était en Dieu est ensuite donnée au Fils de Dieu, qui a été reflétée dans sa vie, se reflète ou fait écho dans notre vie. Écoutez, comment reconnaissez-vous la vie? Comment identifiez-vous ce qu'est une vie? Chaque semence doit se reproduire selon son espèce, selon Genèse 1.11. N'est-ce pas? Et cela signifie que chaque semence possède certains attributs et certains caractéristiques identifiables qui identifient la vie. Et faire écho à la vie, en disant ce qu'elle dit de la même manière qu'elle le dit, et en vivant la même expression par laquelle elle s'est exprimée, montre que la même vie est en vous. Vous voulez savoir si vous avez la vie éternelle? Alors observez les attributs de la vie éternelle et demandez-vous si vous exprimez les mêmes attributs et caractéristiques de la vie éternelle. L'apôtre Jean l'a résumé en un seul mot et c'est le mot écho. Parce qu'un écho est un reflet. Mais pas seulement un reflet comme si la lumière était une chose et que vous êtes capable de faire rebondir cette lumière sur vous. Mais Jean a utilisé le mot écho qui signifie non seulement dire la même chose, mais, de le dire de la même manière, avec la même inflexion en sorte que quiconque l'entend émis saurait pas faire la différence de cette vie dans l'original ou dans la semence qui est née de l'original. Et Jean dit, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le problème aujourd'hui est que la plupart de ceux qui professent être chrétiens n'ont pas la même foi pour croire que Dieu les entend. Ils demandent et demandent et demandent, et n'obtiennent aucune réponse parce qu'ils demandent mal à qui. Il a dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Remarquez, il n'a pas dit que si nous demandons quelque chose selon notre volonté, mais selon sa volonté. Et selon sa volonté, c'est selon sa parole. L'apôtre Paul nous dit qu'au temps de la fin, Dieu doit nous envoyer son Saint-Esprit sous la forme de la sagesse et de la révélation dans la connaissance de lui-même. Éphésiens 1.17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de la doxa, et nous savons que la doxa estère les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit que Dieu estère descendu sous la forme de l'esprit de sagesse et de révélation pour nous amener à la connaissance de lui-même, pour nous préparer et pour que nous puissions savoir. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Or, frère Branham dit dans son sermon, la 70e semaine de Daniel Dim, 6 août 61-67, elle se retrouve dans cet état-là. Et tout ce que ça montre, c'est que c'est juste une période dans le temps. Néhémie, voyez-vous pas? Dieu Néhémie peut pas voir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement que c'est ça qui est arrivé. Et c'est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ses secrets à l'Église. Il Néhémie l'a pas fait auparavant. Et s'il Néhémie l'a pas fait, c'est pour que l'Église continue à veiller et à prier tout le temps, Néhémie sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous souvenez, dans Daniel 12, il a dit, le sage comprendra, au dernier, en ces derniers jours, cela lui a été donné. 68 L'esprit de sagesse entre dans l'Église pour faire connaître à l'Église, par la révélation du Saint-Esprit, il fait entrer l'Église et il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? Nous voyons donc que cette connaissance que nous avons de la vie éternelle n'était pas pour n'importe quel temps, mais pour ce temps de la fin. Et ainsi l'Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui-même entre dans l'Église, apportant avec elle la vie éternelle, et la preuve que nous savons avec certitude que nous possédons la vie éternelle. Dans son sermon, Dr Moïse 24 janvier 55 frère Branham dit, 4 Vous croyez en Dieu, et Dieu confirme votre foi en vous donnant en retour ce que votre foi produit. Vous dites, j'ai la foi pour être guéri. Si vous l'avez, vous êtes guéri. Dieu est obligé envers sa parole. Voyez-vous cela? Ainsi, vous voyez, quand nous parlons de l'écho de la parole de Dieu, la compréhension doit être là, sinon l'économie donnera pas vraiment un son certain, mais un son incertain. Mais nous voyons l'avantage de savoir que nous faisons vraiment écho au Fils de Dieu et donc à la vie qui s'était manifestée dans le Fils. 1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites écho à la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'avantage de savoir que nous faisons ego ester, que nous recevons une certaine paix et un certain repos de nos propres œuvres, et entrons dans une grande assurance dans la foi qui nous introduit dans une paix qui surpasse toute compréhension. Nous nous retrouvons à dire la même chose que les prophètes. Lorsque nous sommes confrontés à la même incrédulité à laquelle ils ont été confrontés. Je ne sais pas combien de fois cela m'est arrivé, quand les hommes posent des questions à cause de leur incrédulité ou quand ils contestent notre compréhension de la doctrine de Christ parce que leurs esprits sont encore inflexibles et ils sont encore des Jésus seuls, des unitaires. Mais j'ai entendu bien des fois des mots sortir de ma bouche auxquels je n'avais même pas pensé. Mais quand je les vérifie plus tard, je découvre que frère Branham avait dit ces mêmes mots et cela me réconforte. Souvenez-vous, Jésus a dit, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est aux cieux. » Et sachant que le mot « confesser » a été tiré du grec « homologéo » qui signifie la même parole. Je trouve ça assez réconfortant de me retrouver disant les mêmes paroles que le Fils de Dieu, parce que ce sont les paroles de vie qui sont sorties du Père. Car Jésus a dit, « Mes paroles sont esprit et elles sont vie. » Et dire les mêmes paroles, c'est faire écho ou exprimer la même parole. Et cela apporte du repos. Et on dit que ce repos doit avoir lieu en 7 heures. Et il est appelé par le mot grec, parousia, qui signifie une certaine audace à parler. Le mot grec parousia signifie une assurance. Ou être franchement confiant. Et il parle d'une absence de peur dans le discours. Ce mot parousia est un mot grec utilisé dans la Bible pour montrer l'assurance, la confiance ouverte et l'absence de peur. Le mot est plus utilisé dans les passages de la Bible qui font allusion ou parlent de l'état des élus au temps de la fin. Cet état d'assurance, de confiance et d'absence de peur est la conséquence directe de la parousia de Christ, qui est son apparition avant la venue. Sa manifestation dans son vrai caractère est le fait que lorsqu'il révèle ouvertement qu'il est et pourquoi il est ici, cela amène les élus à un niveau où maintenant ils savent comprennent leur propre position en Christ. Cela les rend audacieux et sans honte devant lui. Remarquez que ce mot est utilisé dans un sens négatif à l'époque de Jésus comme nous le lisons dans Jean 7.13 personne. Toutefois, Néhémie parle parousia de lui, par crainte des Juifs. Cela montre clairement que la parousia a à voir avec le fait de Néhémie pas avoir peur et ces personnes Néhémie pouvaient pas avoir de parousia, qui était une absence de peur et puis avoir peur en même temps. La raison pour laquelle ils n'avaient pas de parousia et avaient donc peur, c'est parce qu'ils étaient trop préoccupés par ce que les autres pensaient, et pas assez préoccupés par ce que Dieu lui-même pensait. C'est de là que vient la parousia. Quand nous sommes tellement remplis du désir d'honorer Dieu que nous n'avons pas d'autre pensée que ces pensées dont nous sommes disposés et voulons exprimer. Mais quand les gens cherchent une position et un rang avec l'homme, ils taillent leurs mots pour plaire aux hommes. Mais ceux qui ont la parousia sont ceux qui, comme ils savent qui ils sont et qu'il est ici, ils sont disposés à dire seulement ce qu'il a dit, et à faire ce qu'il dit de faire. Ils ont une si grande estime dans la parole confirmée de leur, qu'aucune autre parole n'a de la valeur à leurs yeux. 1 Jean 2.28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il fera, se manifestera dans son vrai caractère, nous ayons de la parousia, et qu'à sa parousia nous n'ayons soyons pas confus et éloignés de lui. Cela vous permet de savoir que les enfants de Dieu doivent atteindre un état de parousia ou d'une absence de peur lorsque la grande présence et la révélation de Christ, sa manifestation dans son vrai caractère, a lieu. Et c'est alors que le prophète de Malachie 4 est sur la scène et Dieu lui-même descend avec un cri, qui est un message. Rappelez-vous que dans 1 Jean 3.1-2, on nous dit que quand il fanera nous aussi nous fanera, parce que nous voyons son fanera. Donc, en substance, nous commençons à lui faire écho, et en lui faisant écho, nous commençons à manifester sa parole au monde, et ainsi comme son vrai caractère nous est révélé ou ouvertement manifesté, nous commençons à notre tour à manifester ouvertement notre véritable caractère qui était prédestiné en nous avant les fondations du monde, qui est la parole se manifestant encore ou à nouveau. Et l'expression encore ou à nouveau signifie un autre écho de l'original. Et nous savons que puisque la parole parle est la semence originelle, alors à chaque fois que la vie de cette semence se manifeste, elle fait écho à l'original, encore et encore et encore et encore. Par conséquent, à ce moment-là, nous entrons dans un état d'assurance sans entrave et de confiance ouverte. Cet état est la conséquence du dévoilement de Christ. Il vient non seulement comme Marie, mais aussi comme notre avocat et notre juge. En tant que Marie, il ne doit pas témoigner contre nous, et en tant que notre avocat, il est notre avocat de la défense et, en tant que juge, l'affaire est réglée. Nous sommes prédestinés à n'aimer pas tomber. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il est le chef, auteur et le consommateur de notre foi. Comme Paul l'a dit dans Galates 2 à Jacques, nous vivons par la foi du Fils de Dieu. C'est par sa foi que nous vivons, pas la nôtre. Par conséquent, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que demander de plus? Cela apporte une confiance jamais connue auparavant. Quand, celui qui a donné la parole est ici pour la confirmer, comme a dit frère Branham. Remarquez, nous voyons qu'il y a encore cet écho. Tel qu'il est, nous sommes, au jour où le juge est présent, que nous trouvons dans Jacques 5.9, et dans Apocalypse 3.20 et Jean 12.48, nous aurons la parousia, qui est une absence de peur. Cela nous fait également savoir que cette parousia est la conséquence de le voir tel qu'il est vraiment. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes. Et ainsi nous savons que nous faisons écho à la vie éternelle. Cette déclaration à elle seule nous assure d'énormes bénédictions et une confiance qui est une absence de peur. Comment Dieu pourrait-il nier une partie de lui-même? Il n'aime le peu. Alors comment pourrait-il nier sa semence? Il n'aime le peu. Alors qu'avons-nous à craindre? Il est là pour s'assurer que nous n'émitons bon cette fois-ci. Dans Éphésiens 3.12 nous lisons, en qui nous avons, par sa foi, selon la version du roi Jacques, NDT, la liberté de nous approcher de Dieu avec parousia. Remarquez, cette confiance sans entrave ou cette absence de peur vient en recevant sa foi. Cela nous dit que cela vient par sa foi à lui. Ce n'est pas notre foi, mais sa foi qui fait cela. Jésus a été le premier à afficher cette audace sans entrave, parce qu'il savait qu'il était et qu'il avait envoyé comme nous le voyons au chapitre 6, 7, 8, 9, 10 de Jean où Jésus s'est vaillamment opposé aux pharisiens et aux chefs religieux de son jour, et a même fait un fouet à leur intention dans le temple. À nouveau, nous voyons l'apôtre Paul parler de la parousia dans Hébreux 4.16. Approchons-nous donc avec parousia du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Dieu veut que nous venions dans sa présence par la révélation avec une pleine assurance, et il nous a assuré que, ce faisant, nous n'y recevrons pas seulement miséricorde, mais aussi sa grâce qui répondra à toutes les requêtes que nous pourrions lui adresser. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Nous devons être convaincus qu'il nous écoute. Le fait même qu'il soit descendu en cette heure et qu'il se soit dévoilé à sa semence et nous a fait le connaître comme jamais auparavant et a établi une relation avec nous, nous fit constater combien il nous aime et veut communier avec nous. Puis, voyons à travers la parole révélée pour cette heure notre place en Christ, ainsi que notre relation avec Dieu en tant que notre tendre Père. Nous comprenons davantage et pleinement notre relation qui a commencé en lui avant les fondations du monde. Quand nous étions dans ses pensées finalement, en cette heure, où nous sommes manifestés, quelle confiance cela devrait nous apporter. Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus, mais nous n'y parvenons pas à recevoir ce qu'il nous a déjà assuré par promesse. Par conséquent, Paul nous dit ici que nous devons d'abord recevoir cette parousia afin de recevoir toutes les autres bénédictions prédestinées, surtout ces promesses qui se rapportent à notre placement et à notre héritage. Et remarquez ici qu'il dit, à la parousia est rattachée une grande rémunération. Maintenant, le mot rémunération, compensation, est une récompense, un dédommagement, qui est à donner sous forme de rétribution pour une blessure ou un dommage. Dieu sait que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors il nous donne la hardiesse pour tenir bon quand nous avons fait tout ce que nous pouvons faire pour tenir bon, et que, par la foi et la persévérance, nous hériterons des promesses. Nous voyons aussi dans 2 Thessaloniciens 1:4-5, 7, 10-12 que nous recevons un signe manifeste que Dieu nous juge digne, et ainsi nous recevons son état d'esprit, sa gloire, sa doxa. Et quand vous êtes remplis de la doxa de Dieu, ses opinions, ses valeurs et ses jugements, comment pouvez-vous n'aimer pas avoir de parousia ou d'absence de peur? Dans Jean 16:25-29 nous voyons Jésus dire aux disciples, à propos de cette parousia, la chose suivante. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je n'aimer vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai parousia du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je n'aime vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles parousia, et tu n'emploies aucune parabole. Remarquez que Jésus lui-même est plein de parousia et il dit qu'au jour où il révèle ou dévoile le Dieu puissant devant nous, nous entrerons aussi dans cet état de parousia et nous n'y serons pas entravés dans notre prière à Dieu. Nous connaîtrons les volontés de Dieu et la pensée de Dieu. Il nous montrera la parousia. Cela vous fait savoir que nous obtenons cette parousia de quelque chose qui nous est montré ou révélé et donc, nous Esther fait écho, et nous en faisons l'écho retour à Dieu de l'écho Esther venu au départ. Dans notre texte, nous lisons l'importance de savoir que nous faisons écho au Fils de Dieu. Et, nous découvrons que cela nous introduit dans un repos et une assurance de la foi. Dans le verset suivant, nous découvrons la preuve de notre parousia avec Dieu. Nous lisons dans 1 Jean 3:21 bien-aimé, si notre cœur n'aime nous condamne pas, nous avons de la parousia devant Dieu. La condition de notre cœur est la seule force inhibitrice dans notre parousia envers Dieu. Comme nous l'avons vu plus tôt, notre parousia vient de sa foi. Nous sommes assurés de recevoir sa parousia si nous recevons sa foi. Si nous lui faisons écho, nous faisons écho au Père. Et comment Dieu pourrait-il vous condamner pour lui avoir fait écho? Chaque père veut que son enfant fasse écho à lui-même, et à ses paroles. 1 Jean 5:14 Nous avons auprès de lui cette parousia, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Remarquez, il l'a dit selon sa volonté. C'est ce que Jésus a dit, je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. Je suis venu pour manifester ouvertement tes pensées et faire écho au Père. Quelle confiance sans entrave nous avons en lui, quand nous sommes assurés qu'il nous entendra toujours. 1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous faites l'écho de la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans son sermon La Reine de Seba, 19 février 61, frère Branham dit, 33 La commission était, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'était faire la démonstration de la puissance. Absolument. Qu'est-ce que le verset suivant dit? Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Les manifestations sont. Les démonstrations sont les œuvres de la parole rendue manifeste. Quand la parole est prêchée, les signes de la parole confirment que la parole est vraie. Sinon, cela n'est mis vient pas du cœur qui a la foi. Cela n'est mis s'ancre pas dans le cœur qui a la foi. Jésus n'a-t-il pas dit que quelqu'un avait semé des semences et qu'alors une partie est tombée le long de la route et les oiseaux l'ont ramassée? Une partie tomba sur un terrain pierreux et les richesses du monde ont étouffé cela, du genre ronces et autres. N'a-t-il pas dit qu'une partie est tombée et s'est reproduite au centuple? Voyez, vous devez premièrement laisser la parole tomber dans un bon genre de foi. Et alors, cette foi reproduit ce que la parole a dit, car la parole est une semence. La parole de Dieu, ici même, est une semence qu'un semeur sème. Et chaque semence se reproduira selon son espèce, si cela est placé dans de bonnes atmosphères et dans une bonne condition. Vous voyez que c'est ce qui amène la parousia. C'est ce qui apporte une telle assurance de la foi. C'est ce genre de foi qui produit ce dont a annoncé la parole. C'est comme ça que vous savez que vous savez que vous avez la vie éternelle. C'est 1 Jean 5.12 qui dit, « Celui qui a fait écho au Fils a fait écho à la vie. Celui qui n'a pas Némi, fait pas écho au Fils de Dieu n'a pas Némi fait pas écho à la vie. » Ainsi, lorsque vous faites écho à la vie même du Fils, vous savez que vous avez la vie éternelle. Quand vous parlez comme il a parlé, vivez comme il a vécu, agissez comme il a agi et faites les mêmes œuvres qu'il a faites, alors vous savez que vous faites écho à la vie du Fils de Dieu et que vous dites exactement ce qu'il a dit. Comme je l'ai déjà précisé, le mot traduit par « a » qui est utilisé à plusieurs reprises dans ce verset a été traduit du mot grec « écho ». Maintenant, si les traducteurs avaient laissé ce mot sans le traduire de même qu'ils ont laissé le mot « baptisma » sans le traduire, d'où nous tirons notre mot équivalent « baptême », alors notre compréhension de ce verset de la Bible serait complètement différente de ce que la plupart des hommes liront en utilisant le mot « a » au lieu du mot « écho ». Maintenant, en lisant ce verset sans traduire le mot, nous le lisons ainsi, celui qui fait écho au Fils fait écho à la vie, et celui qui n'émit fait pas écho au Fils de Dieu n'émit fait pas écho à la vie du Fils. Or, cela signifie que puisque Dieu est à la grande fontaine de vie et dans Jean 5.26 nous lisons, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ainsi, nous voyons que la vie vient du Père, puis vient dans le Fils. Et en lisant ce passage avec le mot écho tel quel, nous lisons Jean 5.26, car, comme le Père fait écho à la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils de faire écho à la vie en lui-même. Et alors que le cœur pompe le sang encore et encore pour faire écho à la vie dans le corps, de même la parole du Père résonnait, faisait écho encore et encore dans sa pensée, et alors quand cela a commencé à sortir du Père, ce même écho de la vie s'est manifesté, d'abord dans son Fils et ensuite dans ses fils. Écoutez attentivement ce que frère Branham dit à ce sujet. Qui dites-vous que c'est? Dîme 27 décembre 64-66 remarqué. Combien petit était le nombre de ceux qui reconnurent qu'il était la parole loin de ce temps-là. Voyez, au commencement, Dieu étant infini, connaissait toute chose depuis le commencement. Et ces choses Néhémie sont que la manifestation de ses attributs. Un attribut. Vous avez un attribut. C'est votre pensée. Vous pensez à quelque chose, puis vous l'exprimez, puis vous l'acceptez. C'est Dieu. Au commencement, il. Si vous êtes, si vous avez déjà été ou si jamais vous serez au ciel, c'est que vous y étiez au départ. Vous êtes une partie de Dieu. Vous étiez sa pensée. Il connaissait votre nom. Il savait qui vous étiez avant même qu'il y eût une molécule, avant qu'il y eût une lumière. Avant qu'il y eût quoi que ce soit, il vous connaissait, et il connaissait votre nom. Et il l'a mis dans le livre de vie de l'agneau avant que le monde fût formé. Vous voyez, vous étiez sa pensée. Et puis puis vous êtes devenu une parole. Et une parole externe, une pensée exprimée. Ensuite, vous êtes manifesté. 67 Sester ainsi qu'il était. Au commencement, il était seul. Dieu était seul avec ses pensées. Il n'aimait ou fera jamais ça, parce que ses pensées sont en train de se manifester. Et Sester pourquoi nous sommes ici même en ce jour, Sester Dieu, qui communie avec ses pensées rendues manifestes. Vous voyez? Nous y sommes. Ainsi vous, par vos inquiétudes, Néhémie pouvait ajouter une coudée à la durée de votre vie. Vous Néhémie pouvez faire ceci ou cela. C'est Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et Néhémie peut venir si mon Père Néhémie l'attire. Cela règle la question. Maintenant, nous pouvons voir que 1 Jean 5.12 est un écho parfait de 2 Jean 9. En ce sens que les deux parlent de ce grand écho de la vie qui vient de Dieu et qui a été repris, écho, par le Fils de Dieu et ensuite par nous qui sommes capables de recevoir les doctrines de Christ. Lisons dans 2 Jean 9 quiconque Néhémie suit pas le rythme ou dépasse les limites de la doctrine du Christ. Néhémie fait pas écho à Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il fait écho au Père et au Fils. Maintenant, pour quiconque pourrait penser que ce discours sur l'écho, le Fils fait écho à la vie, est-ce juste ma petite pensée? Laissez-moi vous montrer que William Branham a parlé de la même chose. Venez et plaidons Marc 4 octobre 55-90 et maintenant, je Néhémie connais rien à votre sujet et ceci est la première fois que nous nous rencontrons dans la vie. Si Jésus me révèle ce que vous êtes venu lui demander ici. Vous êtes venu non pas pour avoir frère Branham. Vous êtes venu pour avoir le Seigneur Jésus. Et maintenant, croyez que je suis juste comme ce microphone. Voyez-vous? Ce microphone Néhémie peut pas parler. À moins que quelque chose parle au travers de cela. Voyez-vous? C'est juste du métal. Il faut qu'un son frappe premièrement cela ici, avant que cela Néhémie fasse retentir un écho, voyez, avant que cela n'opère la transmission. Eh bien, c'est ainsi que je suis juste comme le microphone. Voyez-vous? Maintenant, il faut qu'il y ait une vraie intelligence ici derrière, quelque chose qui vous connaître, et c'est tout à votre sujet. Qui sait pourquoi vous êtes ici? Pour parler au travers de ses lèvres et dire cela. N'est-ce pas vrai? Maintenant, examinons ce que Jésus a dit de lui-même. Remarquez, dans les 4 prochains versets de la Bible Jésus nous dit exactement ce que frère Branham a dit ici. Jean 12.49 Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. On dirait bien que Jésus Néhémie pouvait que faire écho à ce que le Père avait dit en premier. Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole. Et leur dit, en vérité, je vous le dis, Le fils Néhémie peut rien faire de lui-même. Il Néhémie fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Bien, voilà encore votre Fils qui fait écho au Père. Jean 12.50 Et je sais que son commandement est Esther la vie éternelle. C'est Esther pourquoi les choses que je dis? Je les dis comme le Père me les a dites. Voilà votre Père qui parle et puis le Fils, qui dit exactement les mêmes choses. C'est Esther un écho du Père. Jean 14.31 Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Encore une fois, j'agis comme le Père m'en a donné l'ordre. Voilà encore votre écho du Père par le Fils. Et nous en lirons un de plus même si tout le Nouveau Testament est rempli de ces pépites. Jean 15.10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Maintenant, examinons à nouveau ce que William Branham a dit à propos de cet écho autour de la parole de Dieu. Une conférence 20-25 novembre 60-44 alors. Ce Saint-Esprit de Dieu, que nous voyons dans le tableau de Gethsémané, cette lumière-là, en fait, Dieu est la lumière, El Elohim, celui qui existe par lui-même, quand il est descendu dans sa présence, veux-tu aller jusqu'au bout de ceci? Fils? Quoi? Les anges suivent. Quelle en sera l'issue? Le monde entier repose sur ton épaule. Veux-tu payer le prix? Ou que veux-tu faire? Tu peux t'en tirer maintenant même sans la mort. Le calvaire est là devant toi. Là, on te crachera au visage. Et on t'amènera au calvaire. Toutes ces choses. Tu mourras, agonisant avec une couronne d'épines sur ta tête, et ton sang coulera. Et as-tu disposé? Voyons quelle conférence. Quel sera l'écho? Tous les anges sont là, se demandant ce qui se passe alors. Les décisions étaient prises. Qu'est-ce? Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Remarquez que fr. Branham nous dit que la réponse de Jésus était de faire écho à la volonté du Père et non à sa propre volonté. Et vous devez connaître la volonté du Père pour en faire l'écho. Pourquoi je suis contre la religion organisée? 11 novembre 62 S. 205 remarqué. Ceci, c'est Esther l'ange de lumière. Souvenez-vous, le dernier ange, c'est Esther l'ange de l'âge de l'église de l'Odyssée. C'est Esther le messager de la Odyssée qui est Esther le dernier. En effet, le chapitre qui suit directement, c'est Esther le chapitre 19. Ce qui est Esther la venue de l'épouse. Et dans les Écritures, c'est Esther le dernier ange qui est Esther venu apporter les lumières avant la venue de l'épouse pour aller à la rencontre de Christ. C'était donc l'âge de l'église de la Odyssée. Qui était le messager de l'âge de l'église de l'Odyssée qui appelle les gens à sortir de Babylone? Suivez. Des églises ont été prises dans son repère à elle par ses dogmes, en reniant la parole et en acceptant des dogmes. Celui-ci, c'est Esther l'ange de la lumière qui a Esther envoyé à l'église de l'Odyssée qui avait rejeté Christ et sa parole à cause des dogmes et qui l'avait mis dehors. Et il se tenait à la porte en train de frapper, cherchant à entrer. Voyez-vous cela? Cet âge de l'Église a rejeté Christ. Et Christ Esther la parole. Et on a rejeté cela et il était à l'extérieur. C'est Esther le seul âge de l'Église où Christ Esther à l'extérieur, frappant à la porte, cherchant à entrer. Et le message de cet ange. Le messager venu de Dieu faisait l'écho à son message sur la terre, sortez de Babylone, sortez des organisations. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, C'est Esther, cet ange qui cherche à amener les gens à la parole. Car le Saint-Esprit Néhémie confirmera que la parole. Il Néhémie peut pas confirmer des dogmes. Ils n'ont pas de vie. Il est Esther la vie. Remarquez, l'âge de l'église de Laodicée a renié, l'a rejeté, et l'a mis dehors. 206 remarquez, cet ange Esther le dernier messager avant la venue de Christ, dans Apocalypse au chapitre 19. La voix du messager, si nous remarquons bien, quand il a fait retentir sa voix sur la terre, cette voix a fait aussi écho au ciel, le verset 4. Si vous voulez le lire, très bien. Le verset 4 du chapitre 19. Ce messager terrestre était si soumis à Dieu que lorsqu'il a proclamé cela sur la terre, Dieu a fait écho à la même chose depuis le ciel. Quelle est-elle la traduction du verset 4? Qu'est-elle ce que cela veut dire? C'est Esther la voix de Dieu s'adressant à son peuple prédestiné, disant, sortez du milieu d'elle. Très exactement ce qu'était cette voix. Il y a des gens partout là-bas. Partout dans Babylone. Sortez du milieu d'elle. Afin que vous n'y participiez pas à ses péchés, oui. Oui. Sortez de ses dogmes et de ses credos pour aller à la parole rendue esprit et vie. Amen. Remarquez que William Branham nous montre comment Dieu descend avec un cri, qui estère un message, et le messager terrestre Néhémie fait écho qu'à ce que Dieu lui-même a dit au départ. Les ondes du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 M 269 maintenant. Je veux que vous sachiez que c'est Esther certain, et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui, que je cherchais à dire ça de moi, vu que c'est Esther moi qui apporte ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix. Rien de plus. Et, ma voix, même contre mon propre gré, je voulais être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c'est Esther la volonté de mon père. Je n'y suis pas celui qui Esther apparut là-bas à la rivière, je me tenais simplement là quand lui Esther apparut. Je n'y suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui Esther proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi, je savais. C'est Esther seulement que je me suis abandonné pour qu'il parle à travers moi. Ce n'Esther pas moi. Ce n'était pas le septième ange. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'Esther pas un homme, c'est Esther Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme, il était le messager du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Esther Christ, c'est Esther de lui que vous vous nourrissez. Vous Néhémie vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps-parole infaillible du Fils de l'homme. 270 Si vous n'aimez vous, et pas nourri pleinement de chaque parole, afin de recevoir la force pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et des choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment, pendant que nous prions? Ainsi, le prophète n'est-ce qu'un réflecteur ou quelqu'un qui fait écho à ce que le Père a d'abord dit. Et c'est Esther ce que tous les fils feront. Les choses qui doivent arriver d'hymne 5 décembre 65-28 un prophète. C'est Esther quelqu'un qui reflète Dieu. Il Esther fait de telle façon qu'il Néhémie peut pas dire ses propres paroles. Il faut que ce soit les paroles de Dieu qu'il prononce. Il Esther comme un réflecteur. Et il Esther le porte-parole de Dieu. Et ainsi donc, il a dit, une vierge concevra. Probablement qu'il Néhémie pouvait pas le comprendre. Mais Dieu l'avait dit à travers lui. Parce qu'il a promis qu'il Néhémie ferait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et puis, quand il avait dit cela, 700 à 800 ans avant que la chose se réalise, mais ça devait s'accomplir. Finalement, ces paroles de Dieu se sont ancrées dans le sein d'une vierge, et elle a conçu et a enfanté Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et on l'appellera conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. Il fallait qu'il en soit ainsi, parce que Dieu l'avait dit à travers la bouche de son prophète. Et toutes les paroles de Dieu doivent s'accomplir. Par conséquent, nous savons que Jésus est allé préparer une place pour recevoir un peuple auprès de lui. L'enlèvement Samedi 4 décembre 65-134 maintenant. Souvenez-vous, la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il n'est mis peut rien dire. Il n'est mis peut pas exprimer ses propres pensées. Il n'est mis peut qu'exprimer ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de se vendre de vendre ses droits, il a dit, « Comment un prophète peut-il dire autre chose que ce que Dieu a mis dans sa bouche ?» Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu dit 28 novembre 65 268 un prophète Esther, un réflecteur de Dieu. Combien savent cela? Le réflecteur Néhémie se reflète pas lui-même. Le réflecteur n'est pas l'objet reflété. Il faut qu'il y ait quelque chose qui frappe le réflecteur, pour que celui-ci en fasse la réflexion. C'est pourquoi? Un prophète est un vase choisi par Dieu, qui Néhémie peut rien refléter, mais il est parfaitement en ligne avec celui qu'il reflète. Dieu, pour refléter l'image de Christ, la parole. À nouveau, nous voyons qu'il établit ce principe dans son sermon il y a maintenant ici plus que Salomon 26 mars 60-83, il faut qu'il y ait un signe surnaturel qui vient de Dieu pour confirmer. Peu importe combien ça avait l'air vrai, combien c'était d'une théologie profonde, combien ça avait l'air bon, quand même, si le signe surnaturel de Dieu Néhémie le confirmait pas, ce n'était pas vrai pour le juif. 24. Or, l'Ancien Testament, le pectoral d'Aaron a été aboli avec l'Ancienne Alliance. 25. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a encore l'Urim Thummim. C'est-à-dire à dire que si un prophète, un songeur, un théologien, ou quoi que ce soit, prononce quelque chose de contraire à la parole, et que Dieu n'y fait pas écho par la parole, je le laisse de côté, parce qu'elle est l'Urim Thummim de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur, que c'est la parole de Dieu. Et à nouveau dans des monologies, Domaine religieux Mar 9 juin 53 p 99 bien. Et puis, l'Urim Thummim, aujourd'hui, c'est cette Bible. Si quelqu'un a donné une prophétie ou un songe, et que ça Néhémie concorde pas ou Néhémie fait pas écho à la Bible de Dieu, c'est faux. Néhémie le croyait pas. La parole parlait Esther la semence originelle d'Im 18 mars 62 M34 on m'a dit que, si, nous pouvions avoir l'instrument capable de la capter, que la voix d'un homme, ma voix, avec laquelle je m'exprime aujourd'hui, dans 10 000 ans, on pourrait encore la capter dans l'air. Esther comme laisse tomber un pétale au milieu d'un étang. Les minuscules vaguelettes, après qu'elles n'aient sont plus visibles à l'œil nu, elles continuent jusqu'à ce qu'elles atteignent le rivage. De même, l'onde no, voit parcourt continuellement, tout autour du monde. Ainsi donc, notre voix, ce que nous disons, s'estère ce qui nous jugera. Notre témoignage s'élèvera lui-même contre nous. Nos propres voix feront écho elles-mêmes dans nos oreilles la barre du jugement de Dieu, quand son grand instrument captera chaque voix qui s'Esther fait entendre, chaque parole qui a été marmonnée. Alors, À quoi faites-vous écho aujourd'hui? Parce que ce à quoi vous faites écho aujourd'hui sera rejoint au jugement du trône blanc. Alors si toutes nos paroles sont les paroles de notre divin Père, alors Néhémie sera-ce pas une merveilleuse expérience lors du jugement du trône blanc? Ce Néhémie sera pas merveilleux pour notre divin Père? Pour tous les saints et pour tous les anges d'entendre les paroles de notre Père être répétées à ce moment-là alors que notre vie est revue devant tous? Alors quel sera votre écho? Sera-ce ses propres paroles qui sortiront de votre bouche? Ou sera-ce des échos mondains? Des chants mondains de luxure et de péché? Entendrons-nous tous des chants de louanges ce jour-là? Ou entendrons-nous des paroles de country quand votre vie sera rejouée pour que tout le monde l'entende? C'est Esther 1 Jean 5.12 qui dit, « Celui qui fait écho au Fils fait écho à la vie. Celui qui Néhémie fait pas écho au Fils de Dieu Néhémie fait pas écho à la vie. » En d'autres termes, notre vie en Christ devient un écho des paroles du Père pour que chacun l'entende. Car le Fils de Dieu fait écho aux paroles du Père et quand nous faisons écho à ses paroles, nous faisons écho aux paroles de la vie. Nous voyons donc ici que Jésus-Christ était absolument aveugle concernant tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu et au dessein de Dieu. Savoir que nous avons la vie. C'est Esther de cela qu'il s'agit quand on en vient à la foi. La foi n'est-elle pas la promesse? Mais la foi, c'est Esther savoir que vous l'avez reçue. Maintenant, c'est Esther différent que de simplement répéter ce qu'Esther la promesse. Et dans ce cas la promesse Esther la vie. Mais la foi vous fait savoir que vous faites écho à la vie. Et cela nous introduit dans le repos. Et si nous savons que nous faisons écho à la vie, toute notre nature change. Et ainsi notre relation avec Dieu change. Et ainsi nous entrons dans une telle paix que personne Néhémie peut jamais vous dérober votre confiance dans votre relation avec Dieu et donc dans la parole de Dieu. 1 Jean 5.13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez, que vous faites écho à, la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, ici, ce n'est pas le fait que vous faites écho mais le fait que vous savez que vous faites écho. Parce qu'alors, l'écho n'est simplement pas un apprentissage par cœur, comme si vous pouvez simplement répéter. Car répéter Néhémie signifie pas que vous savez et comprenez vraiment ce que vous dites. Mais de savoir que vous faites un écho autour des mêmes paroles que le Fils, signifie que vous comprenez également ce que signifient les paroles que vous dites. Combien de personnes peuvent citer les Écritures mot pour mot sans même savoir de quoi ils parlent? Le monde confessionnel est plein de telles personnes. Et Jésus a tout le temps fait face à ce genre de personnes. Inclinons nos têtes et nos cœurs dans la prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, novembre 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.